RCF. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vais vous évoquer la question des retraites. En effet, on en parle beaucoup, on parle aussi beaucoup des manifestations qui se propagent un peu partout sur leur territoire, laissant place parfois à certaines exactions qui n'ont rien à voir avec le fait de manifester. En effet, comment légitimer d'une manière ou d'une autre une certaine forme de violence au nom de la démocratie. Et j'entends de ci, de là, dans les médias, des représentants syndicaux dire de manière sérieuse, et peut-être même qu'ils le croient d'ailleurs, que ces manifestations sont spontanées, que c'est le fruit de la réflexion et du ras-le-bol de nos concitoyens de ne pas être entendus. Il y a peut-être en effet quelque chose de cela. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'exemplarité. En effet, on nous dit très souvent en management, il faut être exemplaire, le chef d'entreprise doit être exemplaire, un conseil d'administration d'une association doit être exemplaire. Et aujourd'hui, l'exemplarité devrait venir de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que l'on voit à l'Assemblée nationale? Eh bien, exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les rues. Finalement, nos députés, dans la manière qu'ils ont eu de gérer cette réforme des retraites, ont donné un signe à ceux et celles qui aujourd'hui manifestent à l'extérieur qu'ils pouvaient le faire puisque eux le faisaient bien à l'intérieur de l'hémicycle. En effet, et toute proportion gardée, j'ai le sentiment que petit à petit, dans cette opposition à la réforme des retraites, est né quelque part, d'une manière insidieuse, le souffle d'aller manifester, le souffle d'être violent. N'a-t-on jamais entendu certains députés dire « ce sera la casse, il y aura le feu », etc., etc. Alors, aujourd'hui, que faut-il faire? Faut-il, un peu comme le virus de la Covid, essayer de limiter la propagation du virus médiatique, de l'information et de la désinformation? Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions, 12h-13h sur RCF, au cœur même de ces manifestations, de ces grèves. J'espère que vous n'êtes pas trop impactés, que vous pouvez tout de même rejoindre vos lieux de travail respectifs, que vous pouvez rejoindre vos familles, vos amis pour le week-end. En tout cas, si c'est le cas et que vous êtes en voiture et dans des embouteillages ou en train de faire la queue pour prendre de l'essence, en tout cas, nous on est là pour vous accompagner le temps d'une heure d'émission, l'écho des solutions qui est consacré cette semaine, non pas aux retraites, je vous rassure, mais va être consacrée à cette question, comment est-ce qu'on peut mieux gérer son temps, comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser pour éviter de perdre du temps déjà, et puis surtout gagner du temps pour retrouver en définitive cette dernière heure qu'on appelle la 25e heure qui très souvent nous manque. Et c'est Baudine qui sera notre invité, il est l'un des co-auteurs d'un ouvrage qui s'appelle justement la 25e heure. On verra aussi dans nos 7 minutes pour changer le monde, une forêt comestible, qu'est-ce que c'est? La semaine dernière se tenait à Nantes le congrès des APM, l'association Progrès Management, et dans un énorme espace d'expérimentation, je suis parti à la rencontre de deux fans de la forêt comestible, et avec eux, on ira à la découverte de ce qu'est une forêt comestible et en quoi on peut être acteur du lancement sur notre territoire de ces forêts dites comestibles. Voilà, je vous découvrirai tout ça à la fin de l'émission dans nos 7 minutes pour changer le monde. On retrouvera bien sûr Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leur chronique. Et puis, bien comme chaque semaine, on commence avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Frédéric Walter, qui est le PDG de Domitis. Domitis, ce sont ses EHPAD, ses lieux de résidence pour seniors. Mais avec lui, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer aussi d'évoquer la place de l'habitat chez nos seniors, puisque se tient à Paris en ce moment le salon de la Silver Economy et de l'habitat des seniors. Alors moi je vous invite à retrouver Frédéric Walter, il est notre
l'invité écho
de cette semaine.
Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec Frédéric Walter, directeur général des maisons et résidences seniors Domitis. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des résidences seniors et on va faire tomber tout de suite le premier. A priori, une résidence senior n'est pas un EHPAD. Pourquoi ?
Oh ben c'est très différent. Un EHPAD est un, comme son nom l'indique, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc c'est une institution, c'est un établissement médico-social dont la vocation est extrêmement importante et de faire une véritable prise en charge de personnes qui malheureusement se trouvent en situation de dépendance. De l'autre côté, une résidence service senior est un immeuble de logement. En général, nous, chez nous, c'est une bonne centaine de logements avec des locaux d'exploitation commun où les gens se retrouvent. Donc l'idée là, c'est de dire aux gens, vous allez installer votre domicile dans la résidence, vous allez vivre de manière indépendante dans votre appartement, ça peut être un 2 pièces, un 3 pièces, et puis vous allez avoir accès, en fonction de vos besoins, de vos envies et sans doute de vos moyens, à un accompagnement, des services, une assistance qui sont très larges et qui vont vous permettre, alors là pour le coup, de préserver justement votre autonomie. Nous, notre volonté, vraiment la vocation de ce métier, c'est de dire aux gens, nous pensons que si vous faites le choix d'aller dans un habitat sécurisé, adapté, vous avez de bonnes chances de rester plus longtemps autonome et en tout cas d'avoir moins de risques de malheureusement glisser vers la dépendance. Et donc, c'est fondamentalement différent.
Alors justement, comment, parce qu'aujourd'hui, pour moi, je vois deux freins. D'ailleurs, on le voit bien quand on va sur votre site internet, on voit bien les angles de communication qui sont prises, et particulièrement la question du coût, parce que très souvent, ces résidences-services, il y en a d'autres qui existent, ont cette fâcheuse image de ouais, bah c'est bien, mais c'est pour les seniors riches, c'est pas pour les seniors populaires.
Ça dépend à quel niveau on met la richesse. Nous, on a aujourd'hui, en moyenne, hein, je vous parle de moyenne, donc je veux dire qu'on a des gens en dessous et des gens au-dessus, des revenus moyens, des gens qui rentrent chez nous, qui sont aux alentours de 2 500 euros par mois. Mais ça, c'est la moyenne. On a des solutions pour des gens à partir de la moyenne des retraites, c'est-à-dire en France, aujourd'hui, la moyenne des retraites, c'est à peu près 1 400 euros. Alors, elle est plus importante pour les hommes, moins importante pour les femmes, encore, même si les femmes qui ont cotisé maintenant, cette génération de femmes a cotisé beaucoup plus et est en train de remonter. Donc ce n'est pas un produit subventionné, donc il n'y a pas d'aide publique pour ce type de produit. C'est un produit qui en gros s'adresse sincèrement à la moitié de la population. Pour les personnes avec des revenus plus faibles, il existe des résidences autonomie qui, elles, pour le coup, sont financées par des bailleurs sociaux. Donc, on est dans le logement social qui pour certaines, font du très bon travail, mais malheureusement, un petit peu compliqué, qui ont du mal à se développer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste devant vraiment. Ouais, allez-y, pardon.
Qu'on assiste justement à une croissance de l'offre privée plutôt que de l'offre publique.
Ben oui, parce que l'offre, pour le coup, à partir du moment où on est sur un produit qui, en gros, a moins de freins peut-être pour se développer, c'est un peu plus agile et ça se construit un peu mieux. Non, ce que je voulais dire, c'est que on a vraiment, on commence à prendre conscience de la progression considérable de cette population de personnes de plus de 75 ans. Et là, il y a un rapport très récent du Haut-Commissariat au Plan avec le Cercle Matière Grise qui a été publié il y a un mois et demi, qui évalue d'ici 2030 le besoin de logements supplémentaires, alors ce qu'on appelle en logement partagé, un peu pour personnes âgées, entre 120 000 et 180 000 en France, ce qui est considérable.
Alors je disais, il y a deux freins. Il y avait le frein du coût, vous venez de le lever en disant finalement on est dans la moyenne, dans les tarifs, on est à peu près dans la moyenne. Le deuxième frein, c'est comment on arrive, parce que très souvent on dit que les personnes âgées, les personnes seniors arrivent trop tard dans les EHPAD. Comment est-ce qu'à un moment donné on arrive à lever le frein de il faut que je parte de chez moi ou il est bon que je parte de chez moi pour aller justement dans une résidence service. Et ça, c'est un autre frein aussi à aujourd'hui, hein. Parce que les gens n'ont pas envie de partir de chez eux, ils y sont bien.
C'est un frein culturel, vous savez, c'est un frein culturel et nous on essaye de répondre et d'adresser un peu ce blocage en étant très ouvert, en incitant les gens non pas à venir s'installer chez nous tout de suite, mais en les incitant à venir visiter. Parce que vraiment, on a aujourd'hui à peu près, là, on va très vite, on va avoir 175 résidences partout en France à la fin de l'année, et donc on est à peu près partout. Donc on a des solutions, pour, venez visiter, regardez, vous verrez, et vous verrez la différence avec un EHPAD. Après, culturellement, il faut que ça rentre dans les mœurs. Il y a des pays comme le Québec, par exemple, au Canada, qui a une vraie culture de ce qu'ils appellent les seigneuries, là-bas, les gens, assez naturellement, je crois qu'il y a 15% de la population de plus de 75 ans qui habite dans ce qui serait l'équivalent de résidence service senior en France. En France, on en a en gros moins de 1%. Je ne sais pas si vous voyez, on doit être 1,5% maintenant. Parce qu'en gros, il y a 85 000 logements, 85 000 pour une population de plus de 75 ans, 6,5 millions aujourd'hui. Donc si vous faites le ratio, vous voyez qu'on est culturellement très éloigné de ça. Alors pour différentes raisons, je crois que on a aussi un problème de communication.
Oui, bien sûr.
Ça fait partie des choses qu'on, voyez, qu'on essaie d'expliquer aux politiques et aux représentants des pouvoirs publics, leur dire vous devez mieux faire connaître ce produit, vous devez en parler, vous devez l'intégrer dans les solutions proposées aux personnes à tous les âges. On a quand même vécu nous depuis maintenant une petite dizaine d'années une vraie évolution des mentalités. Et nous on a aujourd'hui énormément. Vous savez combien de personnes aujourd'hui, chaque mois, nous contactent pour au moins prendre des renseignements?
Alors, je ne sais pas, mais je sens que je vais le savoir dans 30 secondes.
Vous allez le savoir. Mais c'est énorme, c'est 8000 personnes aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire que tous les mois, aujourd'hui...
8000 personnes s'intéressent à la question.
Qui, par différents canaux, nous contactent. Et les gens souvent découvrent, les gens viennent visiter. Et après, se rendent compte que finalement... Le prix n'est plus forcément un frein parce que nos solutions sont très flexibles. Vous pouvez louer un appartement, évidemment, si vous avez envie et si vous avez surtout les moyens, un beau trois pièces orienté vers le coucher de soleil qui va coûter forcément un peu plus cher. En même temps, vous avez un très beau studio qui est tout à fait pratique pour une personne seule, éventuellement avec un petit jardinet, qui va être accessible pour les niveaux d'entrée de prix que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de 1200-1300 €, avec une partie des services, on peut habiter dans une résidence de métis. Et donc, c'est vraiment des solutions. Nous, on appelle ça, après la visite, on appelle ça une étude personnalisée des besoins. On rencontre les gens, on leur fait visiter, on leur laisse le temps de réfléchir, et on essaie de leur expliquer autre chose de très important en leur disant, on comprend que vous ayez des doutes. On change pas d'habitat comme ça en claquant les doigts.
Bien sûr.
Venez faire un séjour de test. Vous prenez votre petite valise, vous prenez votre brosse à dents, parce que ça, on va pas vous en fournir. On peut vous en fournir s'il le faut. Et vous allez passer 3 jours, 1 semaine, 3 semaines.
Voilà. Allez, dernière question qu'on doit vous poser souvent, même si vous n'êtes pas un EHPAD, vous êtes une résidence service. L'affaire Orpea, ça a marqué le secteur de la résidence senior aussi. Et ça a obligé à être plus positif, à changer peut-être vous des pratiques, à regarder peut-être des pratiques qu'il faut faire évoluer chez Domitis ou pas?
Nous on avait mis en place, oui, alors la réponse quand même très clairement à votre question, ça nous a forcément un petit peu impacté à la marge parce que compte tenu de l'amalgame que vous avez fort justement cité, qui est de dire on confond un petit peu un établissement pour personnes âgées, bon, la différence entre un EHPAD et une résidence senior, on comprend pas très très bien alors que c'est très différent. Oui, ça nous a impacté au départ parce que les gens avaient un peu des réticences en disant attendez, oh là là, on sait jamais ce qui se passe là-dedans, on va attendre un peu. Donc on a eu un petit creux pendant 2-3 mois et aujourd'hui c'est plutôt un peu l'inverse, c'est plutôt de dire, les gens commencent à nous dire mais finalement je pense que je vais quand même regarder un peu cette solution de résidence senior parce que justement je n'ai pas envie d'aller en EHPAD. Je voudrais ici et de manière très claire le dire, on a des excellents opérateurs exploitants d'EHPAD en France, on a des collaborateurs et des salariés qui sont extrêmement engagés, on a beaucoup de qualité. Il y a eu des choses certainement condamnables dans le fonctionnement de notamment de ce groupe privé et on peut le regretter et tout le monde le regrette. Néanmoins, nous de notre côté, pour répondre à la deuxième partie de votre question, nous on l'avait mis en place depuis 10 ans déjà, plus de 10 ans déjà, une démarche qualité, des engagements de service qu'on fait certifier et contrôler par l'organisme AFNOR chaque année. Et donc on en est à la 3e version de notre référentiel d'engagement client. On a, après le Covid par exemple, on a réuni plus de 3000 résidents dans les tables rondes pour être à leur écoute, pour comprendre ce qui est important pour eux, pour elles, puisqu'il y a beaucoup de femmes, et pour eux, et pour justement être vraiment à l'écoute. On a une démarche qualité, on a un traitement des réclamations, chose que malheureusement n'ont pas été suffisamment et suffisamment rapidement mis en place dans un certain nombre d'EHPAD.
Et on voit bien que prévenir, c'est guérir. Merci beaucoup Frédéric Walter d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on continue tout de suite dans l'écho des solutions avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Et on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui Pierre, au moment où justement la réforme des retraites continue d'agiter l'opinion et entraîne des manifestations parfois violentes et des grèves à répétition, vous voulez nous parler d'un autre sujet mis sur la table par le gouvernement, le partage de la valeur.
Oui, car comme vous le savez, le gouvernement souhaite aller plus loin sur la répartition des profits au sein des entreprises. Le partage de la valeur est un outil de reconnaissance du salarié qui se fonde sur la justice et dont les dirigeants attendent souvent des bénéfices en termes d'implication et de fidélisation de leurs salariés.
Alors, quelle est la situation actuelle dans les entreprises sur cette question, Pierre ?
Plusieurs dispositifs de partage de la valeur existent. Certains sont facultatifs, d'autres plutôt obligatoires, mais on en dénombre principalement trois. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'intéressement, qui est un dispositif factuel d'épargne salariale mis en place par voie d'accord avec les salariés et qui permet d'associer financièrement les salariés aux résultats et à la performance de l'entreprise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la participation, qui pour le coup est un accord d'épargne salariale qui permet de redistribuer une partie des bénéfices de l'entreprise. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle l'actionnariat salarial qui permet d'associer les salariés à son capital. C'est un outil adapté dans certains cas, parfois très performant, mais qu'il faut manier avec des règles précises.
Alors que voulez-vous dire exactement ?
Simplement que faire participer les salariés au capital contribue à développer la participation si, et seulement si, cette démarche est en cohérence avec une vision participative plus large portée par les dirigeants et qui repose sur une vision de l'homme et de sa contribution au projet entrepreneurial. En fait, la participation au capital en est à la fois une composante et une conséquence.
Alors, on comprend bien les enjeux et l'importance de ces dispositifs, surtout dans cette période inflationniste que nous traversons.
Oui, parce qu'au-delà du contexte économique, c'est aussi un point de vue fondamental, fondamental qui se plaçait. Ce qu'on appelle la destination universelle des biens dans la pensée sociale chrétienne nous pose nécessairement cette question de la répartition des richesses, donc des résultats. Mais il ne faut pas oublier que chaque situation est différente.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire encore une fois, Pierre ? Pourquoi chaque situation est-elle différente ?
Simplement qu'il convient bien de distinguer ce qui est distribuable de ce qui ne l'est pas. En effet, une entreprise en forte croissance peut avoir la nécessité d'augmenter son fonds de roulement, par exemple. Une autre peut avoir d'importants besoins d'investissement. Autrement dit, chaque situation est différente. J'ajoute que le capital financier ne mesure pas non plus toute la valeur créée dans une entreprise. Son optimisation à court terme peut même détruire de la valeur collective, par exemple par un sous-investissement ou un sous-recrutement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que substituer de la rémunération par de l'accès au capital est bien souvent une erreur, voire une mauvaise idée, même une injustice porteuse de déception et de dysfonctionnement. Alors nous voilà dans un sujet particulièrement difficile sur lequel il ne faudra pas hésiter à revenir dans les semaines à venir, ce que je ne manquerai pas de faire.
Et nous en sommes tout à fait certains. Merci beaucoup Pierre Collignon pour votre chronique. Nous, on continue en musique dans l'écho des solutions et on se retrouve avec Baudine pour évoquer cette 25e heure qui justement parfois nous manque quand on est dirigeant ou manager. Comment organiser son temps, se concentrer, mais aussi trouver des temps pour personnel pour mieux vivre son temps de travail. Voilà, trouver cet équilibre vie pro, vie perso, c'est ce qu'on va évoquer dans le dossier de l'écho des solutions. Merci beaucoup Pierre, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. It's a long, lonely road that I walk on my own. Never thought I'd end up in this place. I went fast, I went slow, then I gave up all hope. Cause I know either way it's the same. And I'm not trying to find somebody, cause no one else but you will do. Yeah, the real thing is gold, how I wish I could hold you. And I
on the floor, 'cause I'm clear on the road I must take. And I'm not trying to find somebody, 'cause no one else but you will do. I'm getting closer, stumbling over everything I need to say to you.
C'était Trousse, interprété par James Blunt. Vous êtes bien sur RCF dans l'écho des solutions et nous, on ouvre tout de suite le dossier de cette semaine.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
On va vous parler d'un ouvrage qui s'appelle « La 25e heure », cette fameuse 25e heure que beaucoup de personnes aimeraient avoir pour pouvoir simplement peut-être lire un livre, aller se balader en forêt et ne pas avoir l'impression de crouler en permanence sous le travail, les emails, les contraintes, les réunions. Et pour ce faire, eh bien, je reçois un des trois auteurs de ce livre, « La 25e heure, les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent » et c'est Baudine qui est avec nous. Bonjour Bao.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors la 25e heure, on va en parler avec vous. Comment vous est venue avec vos deux autres co-auteurs, hein, Guillaume Declercq et Jérôme Dumont, l'idée d'écrire cet ouvrage, la 25e heure ?
Je crois que c'est venu assez naturellement. En fait, j'ai démarré en tout cas personnellement ma carrière dans le conseil où on travaillait quand même pas mal à l'époque, et je crois qu'on travaille encore beaucoup dans le conseil aujourd'hui. Je me souviens que je passais pas mal de soirées au boulot, et d'ailleurs je connaissais même les prénoms de chacun des standardistes de Resto Inn, qui était un peu le Deliveroo, le Uber Eats de l'époque, tellement je commandais de dîners qui étaient livrés au bureau. Je passais pas mal de temps à travailler le week-end aussi, et puis je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait très peu de corrélation entre le temps que je passais au travail et puis l'impact que je pouvais avoir. Et donc j'ai commencé à m'intéresser pas mal au sujet de l'efficacité, à lire des blogs, écouter des podcasts, lire des articles et des livres. Et c'est comme ça que j'ai développé en fait une obsession sur ce thème de l'efficacité et comment mieux travailler.
Et comment vous avez embarqué vos deux autres co-auteurs dans cette aventure alors ?
Bah écoutez, c'est assez surprenant, c'était un hasard en fait, hein. Mes deux co-auteurs, qui sont des amis de très longue date, ont en parallèle développé cette même obsession, et à chaque fois qu'on se voyait pour prendre des verres, et ben on se partageait des petites astuces, des techniques de productivité, à tel point qu'un jour on était en train de prendre une bière dans un bar et on s'est dit mais on a peut-être suffisamment de matière pour en faire un ouvrage.
Alors, un ouvrage qui est composé de trois grandes parties, on va dire. La première, ça va être s'organiser, parce que bien évidemment, qui dit gain de productivité, gain de temps pour soi. Hein, attention, hein, votre ouvrage ne se limite pas simplement au temps consacré à l'entreprise pour être plus productif, mais aussi de savoir trouver du temps pour soi. C'est ça aussi l'important.
C'est en fait surtout ça, je dirais même. Quand on a écrit la 25e heure, on s'est dit on va écrire un ouvrage qui va permettre, on l'espère en tout cas, aux lecteurs de gagner du temps, mais surtout de gagner du temps pour eux et pas pour que ce temps gagné soit réinvesti dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent ou dans leur boulot. Donc on parle de 25e heure on pense en fait que c'est à minima une heure qu'on peut gagner par jour en appliquant un certain nombre de méthodes. J'imagine qu'on va y revenir. Et l'objectif, c'est bien ça, c'est de passer moins de temps sur des tâches rébarbatives et ennuyeuses et en passer plus sur ce qui compte vraiment dans la vie. Et ça, à chacun de le définir, mais ça peut être passer plus de temps avec ses enfants, passer plus de temps avec sa famille, faire plus de dîners avec ses amis, partir voyager à l'autre bout de la planète quand on en aura l'occasion. Et probablement quand le vaccin sera efficace. Mais en tout cas, c'est définir ce qui compte vraiment et passer plus de temps sur ces choses-là.
S'organiser plus pour travailler moins, ce serait ça un petit peu la baseline de votre ouvrage, hein.
Ah bah ça aurait complètement pu être effectivement la signature ou le sous-titre de la 25e heure, je suis bien d'accord.
Alors un ouvrage, je disais, qui est composé en trois grandes parties, hein, s'organiser, se concentrer et accélérer. Pourquoi c'est important? Vous commencez par s'organiser, c'est la clé finalement de la réussite de ce temps retrouvé, pour parodier un petit peu Proust et son temps perdu, à la recherche du temps perdu. C'est retrouver ce temps dont on a tant besoin, ça passe d'abord par l'organisation.
Oui, alors pourquoi l'organisation? Parce que aujourd'hui, on utilise beaucoup de technologies et parfois on en est plutôt, je trouve, l'esclave qu'autre chose. Et en tout cas, pas nécessairement les maîtres de cette technologie. Et c'est ça un peu l'idée de la 25e heure, c'est d'inverser cette relation à la technologie. Aujourd'hui, on reçoit énormément d'emails qui peuvent nous polluer le quotidien, en tout cas qui peuvent nous prendre beaucoup de temps. On reçoit des invitations électroniques dans son calendrier sans qu'on ait forcément son mot à dire sur les réunions auxquelles on veut participer. On a énormément de notifications sur son smartphone, sur les différents outils de chat. Et donc, il est nécessaire de reprendre le dessus et donc de bien s'organiser. Et qu'est-ce que c'est s'organiser ? Eh bien, c'est d'abord définir ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut accomplir à la fois professionnellement et personnellement. Et puis, une fois qu'on a défini ses priorités, eh bien, quel est le temps qu'on veut allouer à chacune des tâches prioritaires.
Il faut bien les définir, hein, parce que sinon, si on ne les écrit pas, si on les définit pas, aussi bien le temps passé, j'ai envie de dire, pour aller faire du sport que pour aller faire de la peinture ou de la navigation, il faut l'écrire, il faut quasiment l'inscrire quelque part dans l'emploi du temps.
C'est ça, c'est un des conseils de la 25e heure, que quand on a une tâche à réaliser, eh bien, de bloquer du temps dans son agenda, ce qu'on appelle en anglais le time boxing, qui est l'idée de dire je vais prendre un rendez-vous avec moi-même, en fait, par exemple, demain entre 14h et 16h pour passer un appel important ou rédiger un email important que je veux envoyer, et ça évitera que quelqu'un d'autre me vole mon temps, entre guillemets, en bloquant du temps dans mon agenda.
Alors comment justement on pose les bases d'une bonne organisation ? Alors moi, pour tout vous dire, hein, en préparant cette émission et puis en lisant votre ouvrage, je me suis dit, bon, moi j'ai fait de nombreux plans de révision que je n'ai jamais tenus, je procrastine beaucoup, et je me dis, comment moi qui suis finalement le créatif par excellence, je peux commencer à m'organiser pour essayer de pallier à toute cette difficulté organisatrice, puisque la créativité vient parfois chambouler tout ça.
Bah, je vais peut-être vous donner deux techniques que les auditeurs pourraient appliquer immédiatement et qui permettent de mieux s'organiser. La première, c'est ce qu'on a appelé dans la 25e heure le pouvoir du non. C'est savoir dire non. Et ce que ça requiert, on l'a évoqué rapidement, c'est d'abord de définir ses objectifs. C'est important à chaque instant de savoir quels sont les objectifs que vous voulez accomplir, que ce soit des objectifs au travail ou des objectifs personnels. Et ces objectifs vont vous servir de filtre lorsque vous aurez des demandes entrantes pour décider ou non d'accepter une sollicitation. On a souvent tendance à dire oui, trop souvent, oui, je vais travailler avec toi sur ce partenariat, oui, je vais venir à la réunion que tu me proposes, oui, pour le déjeuner de la semaine prochaine, parce qu'en fait, en l'absence d'objectif, on va avoir du mal à savoir quand est-ce que on doit décliner. Alors que quand on a des objectifs, c'est vraiment un filtre qu'on peut utiliser pour choisir de dire oui ou dire non. Et y a deux raisons, en fait, hein, pour lesquelles on dit non oui. Pas assez souvent. C'est cette première raison, de pas avoir cet objectif en tête. Et la deuxième raison, c'est qu'on a peur de vexer son interlocuteur, alors qu'en réalité, ça n'est pas lui rendre service que d'accepter alors, quelque chose alors qu'on n'en a pas envie.
Mais alors, quand l'interlocuteur, c'est soi-même, c'est-à-dire qu'il va falloir dire non à soi-même. Je suis en train de faire ça, j'irais bien faire ça, il faut que je me dise non, mais en fait, je pars faire ça. Comment on peut lutter contre ça ? Est-ce qu'on peut lutter contre ça avec votre 25e heure ?
Alors ça, vous embrayez directement, Patrick, là, sur le deuxième chapitre, hein, de la 25e heure, ou la deuxième règle d'or autour de la concentration.
C'est ça.
Ce qui en général nous divertit du chemin qu'on est en train de prendre pour réaliser un objectif, c'est des distractions. On a énormément de pensées parasites, on a énormément de notifications sur ses emails, sur ses écrans. On passe constamment du smartphone à l'ordinateur, par exemple. Et donc, un moyen simple, déjà, qu'on peut tous mettre en place dès maintenant pour cette année, eh bien, c'est de désactiver toutes les notifications, sans exception, et ça concerne aussi les notifications d'email, puisque de toute façon, on sait qu'on va les consulter. Donc, ça sert à rien d'avoir ces pop-up ou ces fenêtres qui apparaissent et qui sont une distraction alors qu'on est en train de réaliser une tâche. On va souvent aller chercher des gratifications instantanées comme obtenir un like sur Facebook, obtenir une réponse à son email, mais ces gratifications instantanées sont pas forcément des choses qui vont nous permettre d'avancer sur nos objectifs. Donc c'est important de savoir s'en prémunir et s'en protéger.
Alors je fais un petit retour en arrière sur l'organisation. On n'a pas dit d'abord, il faudra lire l'ouvrage si vous voulez tout savoir, mais on n'a pas dit aussi que par exemple, pour bien s'organiser et se concentrer, dénotifier, mais en même temps organiser ces plages de lecture d'email pour justement se dire je répondrai à tout le monde, mais ce sera sur des plages et pareil, je vais prioriser mes réponses en fonction des urgences des messages.
Alors ce sera d'abord sur certaines plages horaires et surtout, c'est notre recommandation très forte dans la 25e heure, c'est pas plus de 3 fois par jour. On recommande de ne pas répondre plus de 3 fois par jour à ces emails, c'est-à-dire qu'il est essentiel de dédier un maximum de 3 plages horaires dans la journée, par exemple entre 10h et 10h30, puis entre 14h et 14h30, et puis en fin de journée entre 18h et 18h30. Pour répondre à ces emails. C'est un peu comme les chaussettes sales. Vous lavez pas votre paire de chaussettes sales dès qu'il y en a une. En fait, vous attendez d'en avoir plusieurs pour faire une machine. Ben là, c'est pareil.
Mais souvent, quand elles sortent de la machine, elles sont plus qu'une et on ne sait pas pourquoi, les chaussettes sales.
Mais bon, c'est un autre problème. J'espère qu'on n'aura pas le même problème avec la perte d'email. Mais, et en fait, quand on se pose la question de la réciproque d'envoyer un email ou de répondre à ces emails 3 fois par jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une journée de 9 heures, on aura répondu au maximum en 3 heures aux emails entrants, ce qui me paraît plus que raisonnable. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut réfléchir. Quel est le temps maximum acceptable pour répondre à un email? Si on est d'accord que c'est 3 heures, alors on peut consulter ces emails 3 fois par jour maximum.
Et je reviens à mes chaussettes sales, mais ça évite quand même aussi de perdre des emails. Se dire, je vois la notification, je me dis, je vais y répondre, et puis le temps faisant, il repart dans la base des emails, et finalement, on n'y aura jamais répondu, laissant l'interlocuteur avec une question qui pouvait être importante pour lui, ou une réponse pour l'organisation. On revient sur la question de la concentration. On voit dans votre ouvrage que la concentration, c'est vraiment ce qui est au cœur, j'ai envie de dire, de la bonne organisation. Quelles sont les vraies clés pour être bien concentré? Est-ce que c'est les habitudes finalement? Est-ce que c'est vraiment le fait d'être organisé, d'avoir des vraies plages qui vont permettre la bonne dose de concentration?
Je pense que s'il y avait une vraie clé pour bien se concentrer, c'est de savoir quelles sont ses tentations et de savoir s'en protéger. Si l'on sait qu'on est enclin à aller sur Facebook à chaque fois que une tâche difficile se présente à soi, eh bien, il faut mettre en place un outil qui nous permettra de bloquer Facebook, par exemple, tous les matins, avec un outil qui s'appelle Blocksit, par exemple. C'est créer une bulle, c'est-à-dire probablement se mettre dans un endroit où on n'aura pas d'écran qui vont nous permettre d'être dans un tunnel de concentration. On a eu, en parlant avec un certain nombre de personnes sur ces sujets-là, beaucoup de gens qui nous ont dit qu'elles travaillaient très bien dans les trajets en train. Il y a une bonne raison à cela.
Je confirme.
Pardon ?
Je confirme absolument. On travaille énormément et très productivement dans les trajets en train.
Et voilà, parce qu'en fait, très, très probablement que la connexion et Internet est assez mauvaise, sinon inexistante. Ça nous permet en fait d'avoir aucune notification et d'être dans un tunnel, quoi, qui nous permet d'avancer sur certains projets. Donc, la question, c'est est-ce qu'on arrive à se mettre dans une situation qui réplique le contexte du train, c'est-à-dire pas de notification, un tunnel de concentration, éventuellement des outils qui nous mettent un son en fond, on peut mettre des sons de train, des sons de pluie, etc. Il y a pas mal d'études qui montrent que avoir un fond sonore permet de mieux se concentrer, et notamment répliquer le son d'un café, par exemple.
C'est très intéressant ça. Et j'ai vu dans votre ouvrage, j'ai trouvé ça très très intéressant sur la dimension de la concentration aussi, la capacité que les grands esprits avaient à avoir une journée extrêmement rythmée avec finalement des temps de travail assez courts dans leur temps de journée et donc une concentration maximale.
Ouais, alors vous faites référence à un certain nombre d'exemples qu'on donne de effectivement de grands esprits et dont on voit que quand on découpe leur journée, il y a très peu de temps qui est consacré au travail et beaucoup beaucoup de temps qui est consacré à des pauses et à des loisirs. Bah, à titre d'exemple, Darwin consacrait seulement 3 sessions d'une heure et demie à son travail chaque jour et le reste du temps était dédié à des balades en forêt ou à la lecture de journaux. Et ça, j'en suis très convaincu. Il n'y a pas besoin de travailler 8 heures par jour d'affilée pour pouvoir accomplir ses objectifs. Hein. Il faut choisir ses batailles, savoir déléguer, savoir se concentrer sur ses priorités, faire des vraies pauses qui nous rendent plus efficaces quand on n'en fait pas. Et surtout avoir bien en tête que la productivité, c'est pas accomplir le plus de choses en le moins de temps possible, hein, mais c'est bien accomplir ses objectifs en le moins de temps possible, ce qui est très différent.
Une de vos thématiques, et vous l'avez déjà un petit peu abordé dans la manière de gérer les réponses aux emails, de se limiter dans les tentations de pouvoir faire autre chose, c'est la notion d'asynchrone. C'est retrouver une relation qui ne soit pas synchrone, c'est-à-dire je reçois, je réponds, je reçois, je réponds, je reçois, je réponds. Ça permet aussi une concentration maximum, ce qu'avaient pas les grands esprits qui sont cités dans votre ouvrage.
Ouais, c'est vrai. Alors cette notion d'asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne fait pas les choses en direct. Donc une communication asynchrone, c'est une communication par exemple par email. J'envoie un email aujourd'hui, je peux avoir une réponse dans 3 heures ou demain. La communication synchrone, hein, l'exemple type, c'est je décroche mon téléphone et je vous appelle Patrick. Pourquoi est-ce que on préconise de ne pas privilégier les communications synchrones? Eh bien, c'est parce que moi, ça m'arrange certainement de décrocher mon téléphone pour avoir une réponse de votre part, Patrick, et c'est pour ça que je vous appelle maintenant. En revanche, peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre prochaine émission et vous êtes dans un tunnel de concentration et donc je viens vous distraire. Donc si moi je gagne du temps, en tout cas je vous envole ou alors je prends du temps à un moment où vous n'êtes pas disponible pour me répondre. Donc à minima, prenons rendez-vous et appelons-nous ou alors traitons par email. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment, vraiment privilégier les communications asynchrones.
Alors depuis que j'ai lu votre ouvrage, j'ai appliqué quelques consignes. Alors je prie aux interlocuteurs qui me connaissent de m'en excuser, mais finalement ça m'a permis plus de concentration. Et donc je confirme ce qui est dans cet ouvrage, c'est-à-dire simplement avoir un message disant de privilégier le SMS plutôt que le message vocal. Moi je suis toujours, et ça c'était bien avant de lire votre ouvrage, sur silencieux pour mon téléphone, si bien que quand il est renversé, je ne sais pas si on m'en appelle et donc je peux garder plus de temps. Ça permet en effet de travailler. Et comment on accélère? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent, j'allais dire, quels sont les bons outils à avoir, Bao, pour permettre justement cette organisation? Est-ce qu'aujourd'hui, informatiquement, est-ce qu'il y a des techniques, des technologies qui peuvent accompagner cette capacité à mieux s'organiser?
Oui, alors il y a beaucoup d'outils, mais on peut en citer peut-être quelques-uns. Le premier, c'est les outils collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire de l'édition simultanée à plusieurs mains. Donc au lieu d'utiliser des logiciels que tout le monde connaît, de tableurs, de prise de notes qui sont enregistrés en local, on peut utiliser ces mêmes logiciels mais partagés à plusieurs. Hein. Donc tous les grands éditeurs le font, à la fois Microsoft avec les outils Microsoft Online et Google avec les Google Sheets et les Google Docs par exemple. C'est d'ailleurs sur un de ces logiciels-là, de manière partagée, qu'on a écrit la 25e heure à 6 mains. Un deuxième outil qui est maintenant à disposition dans tous les clients email et dans tous les logiciels d'email, c'est l'outil qui permet de retarder l'envoi des emails. Donc il se peut parfois que vous ayez une super idée un dimanche après-midi et que vous voulez la partager avec un de vos collaborateurs, eh bien épargnez-lui ce qu'on appelle dans la 25e heure le nuage noir, c'est-à-dire cette espèce de charge mentale le dimanche après-midi, et retarder votre email pour qu'il soit envoyé lundi matin. Ça vous permet à vous de ne pas avoir ce nuage noir de pensées parasites qui vous permettront pas de profiter de votre journée. Mais en revanche, ça ne va pas le déplacer dans le nuage noir de votre interlocuteur le week-end, et ça va le déplacer lundi matin. Donc ça, c'est une autre petite astuce assez facile à mettre en œuvre.
Et ça existe aussi pour les SMS. Hein. Moi, très souvent, je l'utilise. Je prépare mon message et je le programme pour le lendemain, si bien que la personne le reçoit, comme vous dites. Moi, je l'ai évacué de ma pensée et je ne l'ai pas imposer à la pensée de l'autre avant demain matin.
C'est ça. Au-delà du temps qu'on va gagner, de passer plus de temps en famille, avec ses amis, sur ses passions, etc., je pense que on gagne beaucoup en sérénité. Et ça, c'est un avantage induit assez significatif hein, de cette organisation, de cette concentration.
Alors, comme j'ai envie de dire, c'est un ouvrage passionnant, mais c'est un peu comme le sport. Ça nécessite de tomber, de se relever, de ne pas abandonner pour mettre en place une organisation comme ça.
Ouais, absolument. Alors, personne n'atteindra jamais, je crois pas,
la perfection.
D'efficacité. En fait, le secret hein, de l'efficacité, c'est une série d'améliorations graduelles. Et moi, je dis souvent que si vous ne vous remettez pas en cause chaque semaine, en fait, il n'y a pas au moins une chose que vous remettez en cause chaque semaine, et bien probablement que vous ne vous remettez pas suffisamment en question. Et en tout cas, personnellement, j'essaye constamment de m'améliorer. On fait des choses nouvelles tous les jours, et bien dans chacune de ces choses nouvelles, posons-nous la question de savoir si on peut faire mieux pour gagner du temps. Et c'est souvent investir maintenant pour en gagner demain. L'exemple typique, c'est les newsletters qu'on reçoit dans sa boîte mail et qu'on ne lit jamais. Ma règle, c'est si je ne la lis pas et que je la reçois 3 fois d'affilée, eh bien je vais me désinscrire. Ça, c'est un effort que je dois consentir, hein, de faire défiler l'email et cliquer sur se désinscrire, mais c'est un effort qui paye sur le long terme, puisque plus jamais je ne vais recevoir cette newsletter qui va polluer ma boîte mail et prendre de mon temps inutilement.
Comment, alors, question peut-être un petit peu perso, comment on s'organise pour écrire à 6 mains un ouvrage? On met en place les consignes qui sont dans cet ouvrage pour l'écrire?
J'espère. Alors, très franchement, on n'est pas non plus les champions du monde. Hein. On met probablement en place 80% de ce qu'on écrit dans le livre. La manière dont on l'a fait, en revanche, en effet, était probablement très productive, puisque quand on était dans ce bar et qu'on prenait des bières, qu'on s'est dit qu'on allait écrire un livre, on a immédiatement sorti nos agendas qui étaient sur nos smartphones et on a réservé un week-end dans la maison de Normandie de la famille de Jérôme, qui est un de mes co-auteurs, avec l'objectif d'avoir terminé l'écriture du livre
le premier jet.
À l'issue du week-end. Alors, la réalité, c'est qu'on avait fait probablement 80% du livre, mais c'était quand même une affaire assez rondement menée en termes de temps, ouais.
Aujourd'hui, c'est pas votre métier que de parler de la 25e heure. Vous mettez un petit peu à profit tout ce qu'on vient d'échanger auprès des entreprises, Bao?
Oui, alors on a été pas mal sollicités. Alors d'abord, on était assez surpris par le succès
l'engouement.
Du livre et l'engouement. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, en fait, hein, de gagner du temps. Et donc, on a été pas mal sollicité à la fois en France et à l'étranger d'ailleurs par des entreprises pour intervenir auprès des collaborateurs pour les aider à identifier et mettre en place des techniques très concrètes qui vont leur permettre de gagner du temps. Donc on essaie de le faire quand on a un peu de temps aussi nous à passer à côté, puisque comme vous le dites Patrick, pour les trois auteurs on a des métiers à plein temps par ailleurs. C'est pas notre métier de faire des conférences ou d'être auteur de ce type de livre.
Est-ce que la période du Covid qu'on a traversée, de télétravail, va venir apporter peut-être à une prochaine édition, une audition augmentée, comme on dit, d'autres éléments que vous avez pu percevoir, d'autres outils que le télétravail a obligé de mettre en place pour justement équilibrer cette notion vie pro, vie perso, sachant qu'elle a été très compactée dans un seul et même endroit pour certains, au moins pendant le premier confinement?
Oui, ce dont on se rend compte, en fait, c'est que le télétravail peut rendre les choses encore plus difficiles du point de vue de l'équilibre vie pro, vie perso. Et notamment, il y a, en tout cas dans un certain nombre d'entreprises, cette croyance que l'employé est toujours disponible. Et on a écrit un article, on n'a pas encore écrit de version révisée, augmentée du livre, mais on a écrit un article en tout cas sur les bonnes techniques à mettre en place en télétravail, et notamment une qui dit de mettre très clairement dans son agenda, lorsque celui-ci est partagé avec ses collaborateurs, que l'on est loin de son clavier. Away from Keyboard en anglais, AFK, qui signifie bien aux autres qu'on est dans un moment où en fait on n'est pas sollicitable. On a le droit de faire des vraies pauses. C'est pas parce qu'on ne se voit pas, c'est pas parce qu'on travaille en ligne qu'on doit être constamment à disposition des autres. Donc oui, je pense que plus que jamais, le télétravail nécessite de bien s'organiser, de bien se concentrer et puis surtout de couper une fois qu'on a atteint ses objectifs quotidiens.
Oui, c'est ça. Se donner un heure de début, un heure de fin, reprendre ses objectifs et se dire voilà, 19h, je coupe et je rentre, je reviens dans mon foyer à la vie réelle. Merci beaucoup, Bao. On arrive au terme de cet entretien. J'ai juste une question. Qu'est-ce que vous auriez envie de souhaiter et la question est très large aux auditeurs qui nous écoutent.
Moi, j'ai envie de souhaiter aux auditeurs de pouvoir peut-être prendre un peu de recul, se poser la question de savoir où sont leurs priorités, qu'est-ce qui les rend heureux en fait, et en fonction de ça, peut-être se donner les moyens d'atteindre leurs objectifs et gagner probablement un peu de temps pour avoir un peu plus de bonheur et faire plus de ce qu'on aime. Voilà.
Trouver plus de temps pour plus de bonheur, voilà une belle invitation. La 25e heure qu'on retrouve où, Bao? Maison d'édition, plateforme de distribution, quelle qu'elle soit?
Oui, il est distribué sur toutes les plateformes de distribution et une grande majorité de librairies. Il est facile à trouver.
Et téléchargeable aussi en format numérique pour ceux
oui,
qui sont
fans. Format numérique, les formats audio également.
Voilà, merci encore Bao. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique Un Max Déco.
Maxime Dupont.
Voilà, et après avoir organisé son temps avec Bao, eh bien aujourd'hui nous retrouvons Maxime Dupont qui va nous expliquer comment peut-être gagner du temps. Bonjour Maxime déjà.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, vous n'avez pas pu y échapper, hein, puisque vous nous aviez déjà fait une chronique via ChatGPT, mais là on va parler de ChatGPT.
Oui, Patrick, vous n'avez pas raté, j'en suis sûr, la sortie de la nouvelle version, la version 4 de ce logiciel d'intelligence artificielle qui a réponse à tout et dont les perspectives d'utilisation nous donnent déjà le vertige. Vertige augmenté par la vitesse avec laquelle les possibilités d'action semblent s'étendre au point de déjà appréhender l'arrivée de ChatGPT sur nos lieux de travail pour bouleverser nos façons de travailler. OpenAI et les autres concepteurs de ces logiciels parient d'ailleurs désormais sur le fait qu'une grande majorité de travailleurs verront au moins une partie de leur travail automatisé.
Eh ben dites donc, et nous avons donc déjà une première étude, hein, puisque vous aimez les études, sur le sujet de l'impact de ChatGPT de ce monde sur nos emplois. C'est bien cela?
Oui, dans un article publié la semaine dernière, des chercheurs d'OpenAI et de l'Université de Pennsylvanie affirment que 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait voir au moins 10% de ces tâches affectées par l'introduction de ces logiciels d'intelligence artificielle. Les mêmes chercheurs estiment qu'environ un travailleur sur cinq verrait au moins 50% de ces tâches affectées. Une révolution, on parle là bien de gains de productivité, bien sûr, mais bien au-delà de transformation profonde des métiers et donc à terme de la quantité et de la répartition des emplois.
Alors quels seraient les emplois concernés? Dentistes par exemple, non?
Non, alors là, ça devrait être à peu près préservé, mais les résultats indiquent que les compétences scientifiques et la pensée critique seront sans doute des compétences qui protégeraient, en quelque sorte, contre cette révolution. À l'inverse, les compétences en rédaction, en programmation, en conception graphique seront sans nul doute bouleversées par ces nouvelles technologies. Profitez bien de votre prestige de journaliste. Liste Patrick, cela pourrait ne pas durer.
Oui, bah écoutez, c'est pas grave, je pense que je serai à la retraite, enfin si, toutefois j'ai une retraite. Et en termes d'industrie, Maxime?
Alors en termes d'industrie, liste des secteurs qui vont être révolutionnés, que dis-je, disruptés: le traitement des datas, les services d'information et de communication, les industries de l'édition et les compagnies d'assurance. Parmi les secteurs préservés, l'agriculture, la pêche et la forêt. Tout notre bon vieux secteur primaire, en fait.
Donc, si vous voulez travailler, eh bien, faites-vous agriculteur, pêcheur ou forestier. Et qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça, Maxime?
Eh bien, comme dans toute révolution technologique, il y a toujours un espoir. Dans ce cas précis, cet espoir que toutes ces tâches qui vont être effectuées par l'intelligence artificielle permettent au plus grand nombre de moins travailler, ou alors que toute la richesse ainsi créée soit mieux redistribuée, puisque fondamentalement, nous travaillerons tous moins. Mais dans toute révolution technologique, il y a aussi une crainte, que la technologie nous échappe, certes, mais surtout que la valeur qu'elle crée soit encore et toujours captée par une minorité. Je vous laisse choisir.
Merci Maxime, je ne sais pas si le choix va être facile, mais en tout cas merci beaucoup pour ces principaux enseignements sur cette étude et on vous souhaite une belle semaine. Nous on continue, alors vous parliez de forêt à l'instant Maxime Dupont, et bien moi je vous emmène à la découverte. Je suis allé la semaine dernière sur le salon de l'APM, l'association Progrès et Management, et j'ai découvert un petit truc tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si vous saviez que ça existait Maxime, mais ce sont les forêts comestibles, peut-être une révolution pour nos futurs agriculteurs et aussi peut-être une révolution dans nos assiettes. Et je suis allé voir deux des personnes qui tenaient ce stand et qui nous exposaient ce que sont et à quoi servent les forêts comestibles. C'est nos 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Je suis avec Marc, on est sur un espace avec des plantes et j'ai cru comprendre que tout ça c'était... une manière de pouvoir se nourrir autrement. Les plantes peuvent nous nourrir contrairement à ce qu'on pourrait penser. Marc, dites-nous un peu plus de cet espace, de cette communauté d'intérêt que vous animez.
Eh bien, en fait, on a fait deux voyages apprenants, on a un troisième en cours. Et dans le deuxième de nos voyages, figurez-vous qu'on est allé visiter une forêt comestible.
Une forêt comestible, c'est quoi ça, une forêt comestible? La forêt peut se manger, on peut vivre dans la forêt et manger uniquement des feuilles, des écorces et des...
Bah, pourquoi pas, oui, en fait, on peut manger des écorces, des fleurs, des feuilles, des fruits aussi, ça peut arriver, hein. Des champignons, des racines. Et donc, l'idée de cette forêt, c'est qu'il y a un avant et un après. Et quand on rentre dans cette forêt, on se dit, mais en fait, il y a 80% des plantes qu'on ignore et qui pourraient être utiles et qui pourraient être dégustées, mangées, transformées, comme par exemple un produit auquel on ne pense jamais, mais le chêne produit des glands. Mmh. Et les glands peuvent servir de farine et on peut faire des magnifiques gâteaux.
De farine de glands.
De farine de glands.
Alors dites-nous, quel est le rapport ici? On est au cœur du métaverne de l'APM. Quel est le rapport entre le management, l'entreprise et ces forêts nourricières?
En fait, le lien, il se fait dans l'engagement que pourrait avoir non seulement chaque entreprise, mais aussi l'APM. Et en fait, aujourd'hui, on est, me semble-t-il, en manque d'engagement sociétal. Quel est l'engagement sociétal fort de l'APM? Aujourd'hui, il y a des valeurs, mais il n'y a pas, à ma connaissance, d'engagement réel dans lequel chaque club, chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise puisse s'impliquer concrètement et localement. Et donc notre idée, notre rêve secret, mais il ne faut pas le dire, soyons très 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 discrets par rapport à ça, ça serait qu'un petit pool d'acteurs très mobilisés puisse acheter, puisse sponsoriser une forêt comestible dans laquelle, alors comestible ou pas comestible, mais c'est plus sympa si c'est comestible. Pourquoi? Parce qu'on peut y amener les enfants, les familles, les salariés des entreprises. On peut même envisager d'amener des experts qui pourraient transformer leur expertise et plutôt que de le faire dans une salle fermée, le faire dans un espace naturel avec des fruits, des fleurs, des champignons.
Alors, concrètement parlant, on fait ça comment? Ça veut dire on vous appelle, on dit on veut créer une forêt comestible?
Voilà, c'est ça. Et nous, on a un pool d'experts. On a un pool d'acteurs engagés, que ce soit des entreprises qui sont déjà passées à l'œuvre, qui ont créé, comme c'est le cas d'Arnaud...
Parler dans le micro, c'est mieux.
Oui, comme c'est le cas d'Arnaud, par exemple, qui, à Roanne, au sein de son entreprise, a transformé l'espace vert, le parc qui était autour de l'entreprise, en forêt comestible. Il a même l'intention de créer, tenez-vous bien, un parking comestible.
Michel Chéroux, vous êtes animateur d'un club APM à Paris. Pourquoi, au nom de l'APM, puisque vous êtes animateur APM, cette question était intéressante pour ouvrir des idées, pour ouvrir l'esprit des dirigeants d'entreprise?
Bon, tous les dirigeants aujourd'hui se posent quand même la question de leur rôle sociétal et leur rôle sur le rééquilibrage des choses sur les aspects environnementaux. Et on va se dire que l'urgence des urgences, en tout cas c'est ma perception, c'est la régénération des sols. Les sols aujourd'hui sont quasi morts à 90%. Hein, on assiste à une baisse de la biodiversité qui est corrélée en définitive à la morbidité des sols. Et donc il y a une urgence énorme parce que si on régénère les sols, on va par leur intermédiaire recapter du carbone, réamorcer les cycles de l'eau, et on en parle de plus en plus. Donc il y a un enjeu énorme sur ce plan-là. Et je pense quand même que c'est un aspect assez concret et assez enthousiasmant auquel la majeure partie des dirigeants, qui sont quand même les dirigeants de l'APM, qui sont quand même ouverts, qui sont bourrés de bonnes intentions, je pense qu'il y a une connexion assez facile sur ces sujets de vivant, de nature, d'agriculture, de nourriture. Donc voilà, ça me paraît évidemment un sujet premier.
Alors justement, au bout de ces deux jours de congrès, qu'est-ce que l'on peut dire des échanges que vous avez eus avec Marc ?
Alors en fait, moi, c'est une confirmation pour nous qu'il y a un réel potentiel, qu'on a au moins une dizaine de personnes qui sont venues et qui se disent mais moi, je dispose d'un terrain de quelques hectares et j'aimerais pouvoir le mettre à disposition de mon entreprise, de mon club APM. Et en ça, la communauté peut aider. Pourquoi ? Parce qu'on a les experts pour ça. On a un expert forestier à l'APM, on a des experts de la forêt gourmande, on a d'autres experts qui interviennent notamment sur la microbiologie des sols. Donc on a réuni au fil de nos webinaires et au fil de nos voyages un pool d'experts qui peuvent intervenir. Il ne reste plus que l'ingrédient quand même assez essentiel de dire la volonté de l'APM de s'engager et d'aider tout ça à émerger et de faire des choix.
Alors, de faire des choix, mais ça prend combien de temps une forêt de voir pousser une forêt comestible, de rendre, je ne veux pas dire rentable parce qu'on n'est pas dans une question de rentabilité, mais de pouvoir consommer simplement.
Alors en fait, ça peut être un objectif de la forêt que d'être rentable, économiquement parlant. Ce n'est pas une obligation. Il y a des forêts comestibles qui sont à usage pédagogique, d'autres expérimentales, d'autres économiques. Donc on peut très bien designer une forêt pour qu'elle soit rentable économiquement parlant. Et la question, j'ai oublié.
Eh ben la question, c'est combien de temps il faut que ça pousse pour commencer à consommer ?
Le temps, je pense que ça peut être assez variable, mais on peut avoir des premiers résultats au bout d'un à deux ans, me semble-t-il, avec des espèces sélectionnées pour être pionnières. C'est-à-dire elles vont préparer le terrain d'autres espèces futures qui assureront une forme de rentabilité. Donc si on décide, par exemple, que le critère premier de la forêt future, c'est la rentabilité économique, ben, on va paramétrer, designer cette forêt en conséquence, avec des espèces sélectionnées, en fonction, bien entendu, de la région, du climat, donc de tout un tas de paramètres. Et on a pour ça des experts dont c'est la spécialité, puisque eux œuvrent depuis plusieurs dizaines d'années.
Alors vous repartez comment de ce congrès, Michel ?
Je suis un peu comme Marc, on a eu beaucoup de contacts qui étaient très positifs avec des gens qui n'étaient pas là seulement pour venir voir ce qui se passait, mais qui semblaient vraiment intéressés à prendre une initiative sur le sujet. Alors ça va du dirigeant qui a 1000 m² et qui se dit je vais faire une forêt nourricière, et on a aussi des membres APM qui sont dans le domaine agricole et qui se disent qu'il y a une vraie opportunité. Alors hier par exemple j'avais une dirigeante qui faisait du bio, mais qui a bien compris que le bio c'est pas la régénération des sols et qu'elle avait envie de passer à l'étape suivante, un petit peu inspirée par ce qu'on lui présentait sur le stand.
RCF, l'écho des solutions.
Et on remercie bien évidemment Marc et Michel d'avoir été nos témoins de ces 7 minutes pour changer le monde. Je vous rappelle que c'était un enregistrement réalisé lors du congrès de l'APM, congrès national qui a réuni plus de 6000 dirigeants d'entreprise à Nantes la semaine dernière. Voilà, il est donc temps de nous quitter pour mieux nous retrouver la semaine prochaine, 12h, 13h, sur RCF. Ensemble, eh bien, nous évoquerons les assises régionales des EDC autour d'une question. La fraternité en entreprise, est-ce que c'est une utopie ? Et avec nos invités, eh bien, nous essaierons de creuser cette question. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. Vous voulez écouter chacune de ces rubriques indépendamment, vous pouvez les retrouver sur rcf.fr. Vous voulez écouter l'émission, c'est pareil, vous vous rendez sur rcf.fr ou alors, si vous le préférez, sur vos plateformes de podcast. En tout cas, nous, on est très heureux que vous nous écoutiez, quel que soit l'endroit, la durée, le format. Bon week-end à toutes et à tous, à très bientôt, au revoir.